Les nuits de France Culture, la nuit Frédéric Dard, nuit commencée en compagnie de Dominique Lagorgette, Dominique Jeanneroux et Thierry Gauthier, tous trois spécialistes de Frédéric Dard et évidemment de Saint-Antonio. Thierry Gauthier d'ailleurs est rédacteur en chef du Monde de Saint-Antonio. Dominique Lagorgette a réuni et édité les textes de colloques organisés autour de l'œuvre de Frédéric Dard sous le titre Une fabrique de la transgression, la langue et l'écriture de Frédéric Dard alias Saint-Antonio. Édition Université, Savoie-Mont-Blanc. Et apparaître le livre de Dominique Jeanneroux, Frédéric Dard, romancier noir, édition Université Savoie-Mont-Blanc également. Bonsoir François Rivière.
Bonsoir.
On a tenté de différencier Frédéric Dard, Saint-Antonio, etc., sans compter les multiples pseudonymes d'ailleurs de Dard. Mais le titre de votre biographie que vous avez publié à la fin du siècle précédent et puis qui a été réédité, c'est bien Frédéric Dard ou la vie privée de Saint-Antonio. Donc en fait, tout est dit. C'est le même personnage.
L'idée, c'était de raconter la vie quand même de Frédéric Dard, que les lecteurs de Saint-Antonio, très nombreux, peut-être plus nombreux que les lecteurs de romans signés Frédéric Dard, ne connaissaient pas vraiment, quoi. Et puis d'ailleurs, c'était pas encore quelqu'un de très connu, au fond. C'était pas quelqu'un qui se dévoilait énormément, sinon dans ses livres, mais d'une manière un peu particulière.
Alors non, on a pu entendre au cours de cette nuit Jésus Lacaille, son adaptation donc du roman de Francis Carco, et puis les entretiens que Frédéric Dard a accordés à Jean-Louis Hésine. Donc on en sait un peu plus, on en sait même pas mal sur la vie de Frédéric Dard, ce qu'il veut bien en dire, et puis on écoutera la fin de cette série d'avoies nues plus tard. Avant, on aura écouté La neige était sale de Simenon, donc son adaptation du roman de Simenon, et une mise en scène de Raymond Rouleau diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale en 1950. Mais avec vous, François Rivière, j'aimerais que l'on parle du Brigadier de Frédéric Dard, publié au Fleuve Noir. Alors c'est quoi le Brigadier de Frédéric Noir? C'est un ami qui était brigadier? Non, c'est le théâtre.
Oui, au théâtre, le Brigadier, c'est l'espèce de bâton que méchamment quelqu'un a voulu faire prendre pour le pilon de Sarah Bernard un soir, avec lequel on frappe les trois coups. C'est un personnage qui s'occupe un peu des droits d'auteur de Frédéric Dard qui a imposé ce titre, très gentiment bien sûr, et je crains que tout le monde justement ne comprenne pas trop ce que ça veut dire. Mais enfin bon, mais on voit écrit sur la couverture qu'il s'agit du théâtre et de quatre pièces.
Dard en scène. Alors, d'accord. Bon, le Brigadier, on a l'explication, mais ce qu'il faut dire, on l'a dit en début de nuit, donc c'est qu'il y a quatre pièces de théâtre. Avant d'en parler, de ces pièces-là, particulièrement Les Salauds vont en enfer, La Dame de Chicago, Les Brumes de Manchester et puis Capone, il faut dire un petit peu quel est le rapport, la relation que Frédéric Dard a entretenue avec le théâtre. C'est une relation qui a commencé très 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 vite, très jeune dans sa carrière d'écrivain, d'auteur.
Oui, Frédéric Dard, en fait, avait une vocation d'écrivain classique, enfin, a eu envie d'écrire très jeune, puisqu'il a son premier roman, qui était une longue nouvelle, il l'a publié à compte d'auteur à 17 ans, c'était d'ailleurs pas extraordinaire, hein. Et puis après, son premier roman vraiment très, très marqué par l'influence de Simenon, Monsieur Joss, était un roman littéraire, enfin, et puis il en a fait quelques-uns comme ça, avant de bifurquer, pour des raisons alimentaires, en fait, vers le roman populaire, sous des tas de pseudonymes, mais il se voulait écrivain, jeune écrivain, et à l'époque, c'est-à-dire dans les années, enfin, juste pendant la guerre et juste après la guerre, les jeunes écrivains écrivaient du théâtre, enfin, on avait envie d'écrire du théâtre quand on était impétrant dans ce domaine de la littérature, ça se faisait beaucoup. Et puis il avait du goût lui pour ce genre de choses. Enfin, et le sens du dialogue, bon, on l'a vu après et pendant quelques décennies qu'il avait vraiment un sens aigu du dialogue et quel dialogue. Mais un peu comme d'autres, comme des contemporains, enfin certains Jacques Robert qu'on a un peu oublié, mais qui a exactement le même âge et qui a eu le même début de carrière que Frédéric, sauf qu'il n'a pas lui bifurqué vraiment vers le roman populaire. Il a juste écrit quelques romans policiers, dont Marie Octobre, dont on a fait un très beau film.
Oui.
Duvivier. Oui. Frédéric Dard, oui, donc s'est tourné vers le théâtre, mais de manière tout à fait naturelle en fait. Et la radio, parce que justement, sa première pièce, semble-t-il, a été... Parce que tout ça est très flou, hein. Lui-même gardait aucun
archive. Oui, je n'ai pas trouvé trace, hein. En tout cas, ça n'a pas été archivé par l'INA.
On ne trouve rien, non. Mais on le croit sur parole. Même s'il a écrit un jour un livre, enfin, ou publié un livre intitulé « Je le jure » qui est rempli de mensonges. éditions inventées, mais enfin bref. Et donc lui, il a commencé comme ça, par le théâtre, parce que justement le dialogue, les dialogues, et puis, c'est, puis c'était plus facile à imposer, parce que trouver un éditeur parisien de littérature, à la limite c'est plus difficile que de trouver un théâtre, notamment à Lyon, puisqu'il habitait Lyon, qui sera en mesure de monter la pièce. Mais cette envie de faire du théâtre s'est accrue au moment où il a rencontré Simenon, qui était venu faire une conférence à Lyon. Lui avait été un fan, c'était vraiment le jeune, l'adolescent lyonnais qui lisait les romans de Simenon qui sortaient, enfin qui était, c'était une espèce de snobisme un peu aussi à l'époque. On lisait les romans de Simenon, c'était un auteur à la mode, quoi, pour des jeunes lecteurs. Et il a pu, comme il faisait des débuts aussi dans le journalisme, là aussi comme tout jeune écrivain qui se respecte et qui crève de faim, il faut faire du genre, on fait des piges à droite et à gauche, on interviewe des gens célèbres, c'est un truc classique, hein, ça, on se rapproche, on danse devant l'arche de la littérature en allant tendre un micro ou un crayon et un carnet de notes à une célébrité. Simenon était venu à Lyon faire une conférence au Célestin, il l'a interviewé et il lui a dit, j'écris, etc. L'autre, Simenon, toujours qui avait jamais peur de faire plaisir à quelqu'un, même s'il n'en avait rien à faire, lui a dit, mais bien sûr, c'est fabuleux, etc. Et ils ont entamé une correspondance. Simenon a accepté de faire la préface, et on a un des premiers romans de Dard, mais surtout, Dard lui a demandé la permission d'adapter un de ses romans qu'il avait beaucoup aimé, qui était La neige était sale. Et la carrière de théâtreux de Frédéric Dard a commencé avec cette adaptation
que l'on va entendre tout à l'heure. Mais est-ce que c'était, alors il y a les adaptations, il a adapté Chenet aussi, non? Il a adapté quand même pas mal d'écrivains.
Oui, plus tard, et ça je l'ai appris après avoir fait ma biographie, j'avoue franchement, il a effectivement, pour la radio suisse, il a adapté des romans de Peter Chenet. Mais là c'était vraiment de l'alimentaire pur, si je puis dire. Mais son envie, c'était justement de pas d'adapter forcément des récits policiers lui-même en écrivant sous pseudonyme et avant même de devenir, de prendre le masque de San Antonio. Il voulait adapter des gens qu'il vénérait, quoi, et notamment Francis Carco, qu'il adorait.
Dont on a entendu Jésus Lacaille en début de nuit. Là aussi, il est allé le voir. Voilà. Il était trop tremblant, alors, paraît-il.
Et alors, avec Simenon, ça s'était très mal passé, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'adaptation que Frédéric Dard a fait de La neige était sale, il l'a envoyé à Simenon, qui à ce moment-là vivait encore aux États-Unis. Enfin, n'était pas encore rentré en France. Alors ça, c'est Simenon qui le dit, qu'il aurait entièrement réécrite, ce qui est quand même assez insultant, enfin très désagréable pour Frédéric Dard, et qui a imposé en tout cas que le texte, quand il a été joué, enfin et quand il a été publié cette revue qui s'appelait Les œuvres libres, c'est une sorte de consécration, d'ailleurs, surtout pour un jeune écrivain, qui est publié dans Les œuvres libres. Bon, là, c'était pour une pièce, mais l'adaptation était signée Simenon et Frédéric Dard. C'est-à-dire que c'est déjà plus uniquement le pauvre jeune Dard qui s'est fait envoyer paître par Simenon quand ils se sont rencontrés à nouveau lorsque la pièce a été jouée, où Carco, qui lui était très sympa, enfin qui a accueilli très très gentiment son jeune lecteur et qui avait accepté que Dard adapte Jésus Lacaille, quand Carco a présenté Frédéric Dard à Simenon un soir dans un cocktail à Paris, en lui disant je te présente ton adaptateur, et Simenon se serait récrié, non j'ai pas d'adaptateur, et Frédéric Dard aurait fondu en larmes. Alors ça, c'est la version Frédéric Dard, qui aimait bien en rajouter un peu aussi. Mm-hmm. Enfin bref, voilà, ça s'était pas bien passé, alors qu'avec Carco ça s'est bien passé. Frédéric a écrit l'adaptation Jésus Lacaille, il l'a amené quai de Béthune où habitait Carco, qui était personnage un peu oriental, comme ça, avec toujours la cigarette au coin des lèvres, mais très accueillant, qui l'a lu, qui a dit « ouais, c'est bien », voilà.
Et alors, finalement, Frédéric Dard s'est vengé de Simenon en vendant des millions et des millions d'exemplaires, comme lui, quoi. Enfin, c'est les deux auteurs francophones du siècle, quand même, qui ont le plus vendu de romans, sans doute.
Oui, il y a un peu la revanche. Mais il y a aussi une chose un peu curieuse qu'on murmure dans les recoins chez les fans de San Antonio, enfin et de Frédéric Dard, c'est qu'il ne se serait pas arrêté là. Enfin, il aurait voulu cette revanche, il aurait voulu l'assumer assez vite, en se servant d'un prête-nom pour écrire une autre adaptation d'un roman de Simenon, qui s'intitule Liberty Bar, et qui a été signé du nom d'un jeune acteur dont le nom m'échappe sur le moment, mais qui après fait carrière sous des pseudonymes aussi dans le roman policier. Mais tout ça, bon, c'est assez.
Ou c'est vous qui êtes en train de l'inventer, non, François
non,
Rivière
non, 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 mais c'est assez curieux. C'est très romanesque, mais on prétend effectivement que Frédéric n'aurait pas aurait voulu se, qui s'est servi à d'autres moments aussi pour des romans de prête-nom. Mais enfin, restons-en là. Et mais sous son nom, il a continué à adapter. Il a adapté Maupassant.
Bellamy.
Bellamy, ça a été un flop absolument effroyable. Il a de nouveau adapté Carco. Il a adapté L'homme traqué. Dont la mise en scène était un peu étrange, qui n'a pas non plus été un gros succès. Et puis après, alors, il a écrit des pièces plus personnelles.
Mais il y avait le théâtre du Grand Guignol aussi, c'est quelle époque ça?
Alors, oui, alors il a poursuivi sa carrière de dramaturge avec la complicité de Robert Hossein, dont il avait fait la connaissance au moment où La neige était sale a été jouée, puisque peu après la création de la pièce, le rôle du héros, enfin du méchant, enfin du type effroyable dans la neige était sale, qui était tenu par Daniel Génin, qui est tombé malade, a été repris par un acteur, un inconnu total, qui s'appelait Robert Hossein, et qui est devenu très copain avec Frédéric, et tous les deux donc ont investi le Grand Guignol, qui était une espèce de bateau en perdition, enfin. Après un naufrage, puisque ça avait été c'était un théâtre légendaire, mais qui était complètement au bout de course au début des années 50, puisqu'il a fini peu de temps après, enfin au tout début des années 60, et Dard a écrit plusieurs pièces mises en scène par Hossein, notamment une qui est devenue, qui a eu un beau succès, qui est Les salauds montent en enfer, et dont il a écrit lui-même la novélisation après coup, pendant que Hossein, sans le prévenir, l'adaptait à l'écran.
Au cinéma. Ouais. Alors, donc justement, les salauds vont en enfer, donc c'est un pastiche d'un roman, enfin du titre d'un roman de Cesbron.
De Cesbron, oui. Les saints vont en enfer.
Oui. C'est dans Le Brigadier de Frédéric Dard, donc c'est l'une des quatre pièces, François Rivière. Aucun rapport avec San Antonio. Enfin, vraiment, oublions San Antonio pendant d'ailleurs cette demi-heure qu'on passe avec vous, François Rivière, parce que La Dame de Chicago, Les Brumes de Manchester et Capone, vraiment, on est très très loin du commissaire français. Même s'il a commencé, ce commissaire français, dit-il, dans le premier roman, je crois, il parle de là quand j'étais au début dans une école de policiers à Los Angeles. Mais enfin bon, c'est une américanisation du personnage comme ça, fugitive et qui ne sera jamais reprise, je crois. Alors, Les salauds vont en enfer, La Dame de Chicago, Les brumes de Manchester et Capone. Déjà, faut dire que c'est une lecture très, très, très agréable, ce qui n'est pas toujours le cas du théâtre, parce que c'est difficile de lire du théâtre. Et là, on n'a pas du tout en tête, on ne sait pas trop comment c'était mis en scène. Sauf qu'il y a beaucoup de didascalies, à une époque où les auteurs s'autorisaient beaucoup de didascalies, sans que le metteur en scène vienne leur dire... je sais ce que j'ai à faire. Et donc, ça se lit. Vous les avez découvertes comment, ces pièces, vous, François Rivière?
Là encore, je vais exprimer un regret, c'est que Frédéric Dard a écrit plusieurs pièces pour Le Grand Guignol, notamment une qui a aussi donné lieu à un roman qu'on peut lire, que j'ai lu il y a longtemps et que j'aime bien, qui s'intitule Du plomb pour ces demoiselles. Et Du plomb pour ces demoiselles, donc une pièce du Grand Guignol. Le texte est absolument introuvable. Il en a écrit deux ou trois autres aussi, dont une très courte pièce qui m'intrigue, enfin que j'ai malheureusement pas pu lire parce qu'elle a disparu, qui s'appelait Une victime du Grand Guignol. Il a écrit
Flic à la manque. Non, c'est un flic à la manque, c'est quoi?
Un flic à la manque, je crois que c'est le titre de ce qui a été finalement du
La Garce et l'Ange. La Garce et l'Ange.
La Garce et l'Ange, enfin, je sais plus. Mais
il faut dire que les titres.
Oui, c'est compliqué parce que même les pièces en répétition avaient un titre qui était plus celui le soir de la générale. Mais en tout cas, le Salon monte en enfer. Bon, bien sûr, le texte a été conservé. Mais je regrette d'avoir pas pu mettre la main, bizarrement d'ailleurs, même à la Société des auteurs, curieusement, les pièces, et comme Frédéric Dard n'avait pas d'archives, gardait rien, moi ça m'ennuie parce que j'aurais aimé justement exhumer des textes totalement introuvables, enfin que les fans, enfin les chercheurs peuvent même pas lire, quoi.
Oui, mais enfin en tout cas nous on peut lire, c'est déjà formidable de pouvoir lire ces quatre pièces parce qu'elles sont toutes intéressantes. La Dame de Chicago, c'est une comédie, La Dame de Chicago.
Alors, La Dame de Chicago, bon, c'est une pièce que personnellement je trouve intéressante, qui est au fond pas si éloignée quand même de San Antonio, le côté quand même drôle, enfin le côté un peu délirant, les personnages truculents, enfin inspiré par la réalité, enfin ou les films,
Scarface,
les incorruptibles, enfin c'est vraiment Al Capone, enfin on est déjà dans Al Capone, même si après viendra Capone, mais La Dame de Chicago, c'est quand même une pièce que, comme souvent c'est le cas dans le monde du théâtre, Frédéric Dard a écrit pour une comédienne, Elvire Popesco. Le problème, c'est qu'Elvire Popesco, un peu comme le Grand Guignol, était en bout de course, était à la fin de sa carrière, elle avait des trous de mémoire, mais absolument abyssaux, et la première a été une catastrophe, et la pièce a pas duré plus de quelques semaines, enfin, et encore...
C'est déjà bien.
Oui, c'est déjà bien, mais enfin, ça n'a pas été un succès du tout, alors que Frédéric Dard espérait justement... enfin, il allait pouvoir faire un vrai succès avec une pièce plus ambitieuse que les pièces du Grand Guignol qu'il avait écrites auparavant. Mais
c'était très loufoque. Il y a le cadavre habituel qu'il faut dissimuler. Il y a un monte charge. Il aime bien les ascenseurs, les bancs de charge. Hein, ça coûte une fortune pour mettre en scène ces pièces-là.
Oui, non, ça a été. On a fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Non, puis il y a des trouvailles. Enfin, il y a des. On est quand même un peu dans San Antonio quand la créature, l'espèce de mère maquerelle que joue Elvire Popesco, enfin la chef de gang, dit à Al Capone, si tu fais des emmerdes à mes yeux, je te le dis à ta mère, enfin des choses comme ça. Bon là, on est dans San Antonio quand même.
Faut dire qu'elle l'a connu tout petit.
Oui, qu'elle
a fait sauter sur ses genoux. Enfin bon.
Oui, il y a ce côté cocasse, c'est Dubout un peu. Il y a ce côté Dubout littéraire qu'il y a souvent chez Frédéric, enfin chez San Antonio, dans San Antonio. Et là, effectivement, on est. Mais moi, je regrette une chose, c'est que il n'est pas choisi la bonne actrice. Enfin, ou en tout cas, on aurait vu. Moi, j'aurais mieux vu Marie Marquet. Enfin bon, mais qui était toujours vivante à ce moment-là, je crois.
C'est préférable pour jouer, oui.
Ouais. Et qui aurait été, non mais je dirais qui aurait pu éventuellement, quand on voit le rôle par exemple qu'elle a tenu dans des films d'Audiard, enfin bon, on est un peu aussi dans le Audiard des films écrits et réalisés par Audiard, enfin on est dans ce truc là de toute façon, ce sont des carrières parallèles, hein. Moi ce qui me plaît bien, c'est justement de voir comment les gens qui ont au départ les mêmes envies, les mêmes trucs se croisent, se recoupent,
Mais ça aurait pu être adapté au cinéma par Mel Brooks aussi, on pense à des gens comme ça.
Oui, ça aurait pu être adapté. Alors les adaptations, le drame, enfin, on va pas en parler peut-être, mais les adaptations au cinéma de Frédéric Dard sont toutes absolument effroyables. Enfin,
parlez-en.
Voilà. Non, mais même la vieille qui marchait dans la mer, même si
Jeanne Moreau.
On a Jeanne Moreau et Serrault aussi sur les peaux, on sent que c'est un peu un calvaire. Enfin bon, mais sont tenus adaptés au cinéma, ça n'a rien donné. C'est quand même un des rares personnages de fiction policière à succès énorme qui n'a jamais eu droit à une série télé, parce que c'était au fond impossible. Je crois qu'il y a encore des tentatives pathétiques au 21e siècle pour essayer d'en tirer une série télé. On pourrait y arriver d'ailleurs, parce que quand on voit certaines séries télé actuelles, policières, que je ne citerai pas, on peut se dire que San Antonio finira par y arriver.
Alors, Les Brumes de Manchester,
Là, c'est quand même autre chose. Enfin, c'est une pièce que Robert Rossel lui a demandé d'écrire. Enfin, on lui a dit, j'aimerais une pièce à l'ancienne, une pièce policière à l'anglaise, comme ça, oui, un peu à la Agatha Christie. Frédéric Dard aimait beaucoup, ce genre de littérature policière. Bon, il se moquait dans ses romans, dans les
Antonio. Agatha.
Voilà, la mère Agatha. La
mère Christie.
Oui, je ne sais plus comment il l'appelait.
Mémé Agatha ou des choses comme ça. Enfin, mais en effet, on sent qu'il a lu et qu'il admire.
Mais il avait lu quand
il
était gamin, enfin adolescent. Et du coup, il a écrit cette pièce qui se tient bien. Enfin, qui est une pièce qui, d'ailleurs, je crois, fait encore les beaux soirs du théâtre amateur dans nos provinces.
Mais oui, mais il faut. C'est des pièces qui nécessitent quand même beaucoup d'investissement. Il y a beaucoup de comédiens. Il y a des décors. Le décor, on peut s'en débarrasser, mais pas toujours. Enfin, parce que il y a des décors qui sont qui font partie de l'intrigue, qui servent
vraiment à l'histoire.
Je parle de l'ascenseur, mais bon. Alors, on peut ne pas les voir et on ne les verra peut-être jamais plus, mais bon, espérons.
Et là, on les lit.
C'est déjà des gens essentiels.
On est dans la tradition du théâtre policier, qui est surtout anglo-saxon, évidemment, et Frédéric Dard avait un peu l'œil là-dessus, notamment, donc, une autre pièce qu'il a adaptée, tirée de... Le cauchemar de Bella Manningham, qui est tirée d'une pièce anglaise, enfin, de l'auteur de La Corde, Patrick Hamilton, qui est un remarquable...
Hitchcock avait adapté, plus tard.
Qui a écrit des romans aussi, qui a eu droit à une mise en scène au cinéma de cette pièce, enfin, avec Charles Boyer, Ingrid Bergman, dans les années 40, par Cukor. Mais Frédéric, donc, alors qu'il lisait pas l'anglais, moi je l'ai connu assez bien pour savoir que, alors qu'il était anglophile, ce qui m'a beaucoup surpris quand je l'ai rencontré la première fois, il était vraiment anglophile, il aimait beaucoup Londres, il lisait les romans anglais, mais il lisait en français, il parlait pas, il a même pris dans les années 60 des cours d'anglais, mais ça n'a rien donné, enfin bon, là c'était vraiment un problème de ce côté-là, à adapter un texte anglais qu'on a dû lui traduire. Ça, j'ai pas eu. C'est des choses qui arrivent. Hein. André Gide est censé avoir traduit, je sais plus quoi. Quand Julien Green lui parlait de certains romans de Henry James, il fallait qu'on lui répète 15 fois. Enfin bon.
Et il y a d'autres exemples de traducteurs qui n'ont jamais.
Mais donc cette pièce, le cauchemar de Bella Manningham était aussi. A élargi un peu le spectre des possibilités dramaturgiques de Frédéric Dard, qui avait quand même un vrai talent d'auteur de théâtre.
Bon. Ah bah oui, mais ça se lit, je vous dis, avec l'intérêt de, voilà, on ne verra pas cette pièce, peut-être, mais Les Salauds vont en enfer, La Dame de Chicago, Les Brumes de Manchester, on lit ça comme, en effet, on lirait l'adaptation d'un bon roman d'Agatha Christie, de votre Agatha Christie, François Rivière.
Oui, d'Agatha Christie, qui avait un certain talent, qui a écrit des très bonnes pièces, qui en a fait une, la plus connue, qui est jouée depuis 60 ans, plus de 60 ans maintenant, à Londres.
La Souricière.
La Souricière, qui est loin d'être la meilleure pièce qu'on ait jamais écrite sur le thème policier. Enfin bon. Mais elle en a en revanche écrit d'autres qui sont remarquables, et puis aussi quelques-unes qui sont pas terribles. Mais elle avait aussi un sens du théâtre. Parce que elle est aussi d'une génération, enfin, elle est une génération antérieure à celle de Frédéric Dard, mais une génération où les auteurs écrivaient des pièces. Ça remonte même au 19e, à l'époque victorienne, où les romanciers étaient obligés d'écrire une adaptation théâtrale des romans qui venaient de publier pour assurer le copyright, pour éviter le piratage. Parce que grâce au théâtre, il n'y avait pas de piratage. Alors qu'il y en avait pour la fiction, et ça a disparu au début du siècle, quand les agents littéraires des deux côtés de l'Atlantique ont commencé à sévir. Mais donc c'est une tradition très, très classique en Angleterre, effectivement, mais que Frédéric Dard a maintenu de son côté, mais c'est aussi parce qu'il était inspiré par des auteurs, moins peut-être par quelqu'un comme Agatha Christie que par un auteur comme James Hadley Chase ou James Cain aussi, l'auteur américain James Cain, Peter Shelley. Bon, c'est un peu la source de San Antonio, enfin une des sources, même si après ça a dérapé vers autre chose. Mais James Hadley Chase, oui, il a beaucoup marqué. Il a adapté La chair de l'orchidée, enfin le non pas oui et la chair de l'orchidée, je
oui,
crois
et plus pas tard d'orchidée, pas d'orchidée pour Miss Blandish.
Pas d'orchidée pour Miss Blandish, qui sont des adaptations, même si son sens du dialogue s'est un peu affûté dessus, enfin mais là il se sentait totalement à l'aise avec ce genre de fiction, hein.
Alors, Le Brigadier de Frédéric Dard, donc, théâtre, Dard en scène, c'est au Fleuve Noir, avec quatre pièces, dont trois connues, Et encore, Les Salauds vont en enfer, La Dame de Chicago, Les Brumes de Manchester, et puis Capone, qui est une pièce inédite, est préfacée par vous, François Rivière, et de même que vous préfacez la réédition de tous les San Antonio, et le tome 18 est paru dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Il y en a encore combien à paraître? Une dizaine?
Alors normalement, trois volumes encore, qui sont un peu plus gros que les volumes précédents pour pouvoir rassembler tout, sans, pour ne pas s'étendre à l'infini.
Quel est le titre que vous préférez, comme ça, dans votre mémoire de lecteur de San Antonio? Tous ces titres insensés dont on se souvient parfois du titre et pas de l'action.
Oui, il y a des titres qui, alors je peux pas vous citer tous les titres, ils m'ont davantage plu que le reste, si je puis dire. Mais, j'ai ce souvenir, et toujours ému d'un des romans qui s'intitule J'ai peur des mouches, qui est un des premiers, qui est vraiment magnifique. Il y a aussi La fin des haricots, qui est absolument magnifique. Il y a Tango Shintok, qui est absolument extraordinaire, que j'ai relu il y a pas longtemps. Mais les romans, sa période des années 60 était quand même une très très bonne période, même si après, bien sûr, il en a écrit beaucoup d'autres. Il y en a qui surnagent. Je pense qu'il y a des moments où il avait un coup de mou et il écrivait un peu la nuit sans se réveiller.
Bon, c'est la nuit Frédéric Dard qui se poursuit avec La neige était sale et avec la fin de La voix nue que Jean-Louis Zine avait tendu son micro à Frédéric Dard. Merci François Rivière.
Merci à vous.